Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Maurice Daubard est un homme de cœur, autodidacte et atypique. En 1948, au suite de la guerre, il tombe gravement malade et sera hospitalisé pendant plusieurs années dans des centres spécialisés. Condamné à être handicapé par le corps médical, c'est à cette époque qu'il rencontre un ancien missionnaire, prêtre chrétien ayant côtoyé un grand nombre de yogis indiens. Ce dernier lui enseigna les bases du yoga mental, la pensée positive, Sankalpa, et le contrôle du souffle, le Pranayama. Grâce à sa foi et à ses enseignements, il obtiendra les premiers signes spectaculaires de l'amélioration de son état de santé. Âgé de 83 ans, Maurice continue d'enseigner le yoga dans des conditions extrêmes. J'ai rencontré cet homme lors de l'un de ses stages dans les Alpes suisses. Mais qui est réellement Maurice ?
Qui je suis, c'est une question assez vaste. On cherche qui on est toute sa vie. J'aime dire on est toujours en reconstruction. Parce que la vie, c'est l'escalade d'une montagne et la désescalade. Et comme on dit dans le bouddhiste, il y a l'impermanence. Mais bon, ceci dit, moi j'aime bien rêver d'impossible en général. J'aime bien l'Inde et les Indiens, j'en ai eu comme prof. Mais mon attirance, c'est dans mes racines, c'est le Tibet. Les Tibétains, oui. J'ai toujours été attiré par le Tibet. Je ne suis pas allé en Inde, mais je suis allé au Tibet. Et j'étais reçu par des Rinpoché, etc. Et donc, pour moi, je suis même engagé politiquement avec le Tibet. D'ailleurs, ça, j'ai fait faire des maillots par des gens chez moi. Et j'ai fait donc le drapeau tibétain qui est unifié libre, avec dans le dos écrit Tibet libre. Et ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, je demande aux gens du yoga, sans violence, tel que le définit Gandhi, on appelle Ahimsa la non-violence, justement que tout le monde mette un petit autocollant avec le marqué Tibet libre. Et ça jouera sans violence, non pas pour lutter contre les Chinois, mais pour que le monde fasse savoir à la Chine qu'on souhaite que ce pays hautement spirituel, qui donne des bonnes vibrations dans le monde, puisse être autonome, libre, s'il le souhaite.
C'est vrai que l'histoire du Tibet est relativement triste. C'était un pays qui était autonome jusqu'en 54, je crois, avant l'invasion chinoise.
Parce qu'il y a deux parties, au nord-est du Tibet, où était Alexandre Davinel, où je suis allé, où les religieuses travaillent le tummo, le travail du froid, spécialité du froid. Donc j'ai vécu avec elle, au cours de ce voyage, dans le nord-est, à 5400 mètres, elles sont 6000 bouddhistes, religieuses, dans un état de pauvreté, et elles vivent le tummo. Le matin, elles montent sur leur toit ou ailleurs. Elles travaillent une heure, toujours une heure, les Tibétains. Donc le travail, mais qui eux, n'est pas une recherche d'harmonie comme chez nous. Chez nous, on recherche l'harmonie, ce qui est bien, dans un premier temps. Eux, c'est totalement au divin. C'est spirituel, comme la vie des moines. Et c'est les Tibétains qui ont créé, avec Milarepa, qui est le plus grand sage tibétain, qui a créé cette démarche de s'opposer au froid pour obtenir la chaleur, et etc.
On va en parler du tummo, du yoga tummo, mais j'ai envie de connaître un petit peu l'historique. Donc Maurice Daubard, comment est-ce que vous êtes arrivé à quitter peut-être la France la première fois? Pourquoi le Tibet? Et quelle a été la rencontre avec le tummo? Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, au Tibet, au tout début?
Vous savez, dans la vie, moi j'ai des paraboles qui suivent ma vie. J'aime dire, toute dépréciation devrait être considérée comme un cadeau du ciel. Voilà, déjà, c'est une première parabole. Donc, je suis pas pour faire pleurer tout le monde, mais ma vie, c'est sur Internet. J'étais bon avec mes parents, des problèmes, parents pauvres, etc. Je vais sauter ce passage. Ensuite, je suis tombé tuberculeux, 5 ans de sanatorium. Tout le combat, parce que c'est pas une angine. Quand on vous dit que vous allez mourir par la tuberculose, j'ai tout le haut du poumon une grande partie du poumon droit qui est bouffée par le bacille de Koch. À l'époque où il n'y avait pas le rémifond, la streptomycine n'était inventée. Je suis sorti juste avant.
Là, on est en France, là.
De 18 à 23 ans, comment ?
Là, on est en France, à cette époque-là.
Oui, 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 bien sûr, moi je suis français. Et donc, après la guerre, hein, j'avais 18 ans quand je suis tombé malade. Et tout le reste n'a pas été brillant, toujours. Mais aujourd'hui, je remercie ces événements, ils ont fait de moi ce que je suis devenu. Alors, vous savez, on dit dans les yoga, puis partout, quand l'élève est prêt, le maître arrive. On tombe toujours sur les gens qu'on souhaite rencontrer, même à notre insu. Ça, c'est comme ça. Alors, quand ils arrivent, eh bien, on dit, voilà, j'attendais cette personne pour m'aider. Alors, je suis tombé sur les bons enseignants, pas forcément dans le yoga, mais ailleurs, des médecins, etc. J'étais marié avec une femme médecin psychiatre, donc j'ai fait de la psychiatrie, mon fils aussi. De terrain, pas en tant que médecin. J'ai fait des études pour être meilleur prof de yoga, etc. Et puis je me suis lancé dans des expériences, toujours cette course-poursuite pour essayer d'éviter que la maladie me rejoigne. Donc ça ne peut pas m'éterniser, on y serait demain matin encore, sur tout ce qui s'est passé pendant tant d'années où on a peur. Alors, à un moment donné, les médecins ont dit que j'étais devenu anormalement normal. Parce que j'ai tellement bossé de peur que je me suis mis dans l'extrême. Puisque vous verrez sur Internet, j'ai fait plein de choses depuis j'ai fait du judo, ceinture noire, je suis passé maître nageur, je savais pas nager, puis etc. Puis après, je suis parti à fond, j'ai fait une heure, j'étais le premier homme au monde à rester une heure enfermé dans un cube de glace, vous avez sûrement entendu parler de moi, où j'étais enfermé pendant une heure, je l'ai fait pour une œuvre. Et puis, c'est tout été créé comme ça. Donc, en fin de compte, quand je me suis éloigné de la maladie, après, je l'ai fait pour rencontrer l'exaltation. Parce que c'est pour autre chose, quoi, une autre dimension. Mais j'ai pris un chemin. C'est pour ça que le dernier livre que j'ai écrit, c'est Rêver d'impossible. J'ai toujours rêvé d'impossible. Et tout ce que j'ai fait, quoi. Alors,
vraiment, ça, l'idée de dépasser ses limites, quoi. Montrer que faire autrement, que c'est possible, aller au-delà de ses peurs.
Bien sûr.
Et de ses croyances, sortir de ses croyances aussi, quelque part. Parce qu'on...
Oui, sur le sixième sens, le système neurovégétatif qui est là. J'ai fait des études et j'ai été sur le terrain. Et donc, c'est un choix de vie, quoi. Alors, j'ai fait plein de choses, vous verrez, sur Internet. À l'époque, maintenant, je ne suis plus dans ce... Mais ça m'a apporté une grande expérience qui me permet d'être enseignant. Puis j'ai commencé le yoga assez vite. Et puis, petit à petit, j'ai éloigné la maladie au travers de toutes ces expériences. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a donné une réputation, parce que, au lieu de pleurnicher sur mon sort, et aujourd'hui, je dis merci à cette malchance, puisque, je vous l'ai dit, toute dépréciation, aussi bien d'ordre psychique que physiologique, devrait être considérée comme un cadeau du ciel, parce que on a le moyen, avec des images mentales positives, en travaillant des buts à atteindre avec des bonnes images et prendre le chemin malgré les difficultés, eh bien on se transforme, il y a transformation malgré les craintes, malgré tout ce qui arrive, on se reprogramme quand on pense qu'on va chuter, etc. Mais c'est la vie, quoi. donc le yoga, voilà, petit à petit, j'ai trouvé que c'est... Je définis le yoga comme une culture de connaissance de soi.
Comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un de 10 ans qui vous dit « Maurice, le yoga, c'est quoi ?»
À un enfant, je lui montre, parce que les gens dans la rue « Ah, vous faites du yoga ?» Puis ils sourient un peu, vous voyez, d'un air, parce que c'est la mode, et puis enfin, beaucoup de gens font du yoga, mais enfin, c'est souvent du yoga, je dis, avec humour. Ah ouais, les gens partent dans une... Ils ont lu des livres, ils sont partis dans une élévation spirituelle académique là-haut, etc. Et puis ça, si divin existe, ils mettent hors de portée. Alors que, alors c'est quoi le yoga ? Il y a un petit sourire ironique. Alors je pars pas dans une discussion comme ça, escalade intellectuelle, métaphysique, académique. Je dis, tenez madame, prenez mon pouls. Puis je ralentis mon cœur, ils disent ah, je sens plus. Eh ben, je dis c'est ça. Regardez comment je respire d'un côté ou de l'autre. Ah, vous respirez que d'un côté ? Ben, je dis oui. Ah bon ? Je suis pas constipé parce que tous les matins je vais au WC. Accroupi et non pas assis. C'est la technique. Ah bon ? Ah, ben qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi parce que je suis constipé ? Donc vous voyez, vous avez gagné la partie. Si vous l'emmenez là-haut intellectuellement, elle va dire c'est encore pire que ce que je pensais. Il faut montrer, il faut être exemplaire. Donc quand je parle des corpuscules de Malpighi, toutes ces petites antennes qui vont directement ici, ça ne passe pas par le cerveau intellectuel. Donc on a un chef-d'œuvre en nous qu'on ne connaît pas plus que les ordinateurs. Mais comme disait Einstein, il faut attendre peut-être l'homme de l'an 3-4000 et ils diront nous qu'est-ce qui s'était arriéré en 2014, 2013.
Donc cette connaissance de son corps, la maîtrise de ses organes internes, c'est quelque chose que vous avez découvert avec les nonnes au Tibet.
Ça commence comme ça. Pas au Tibet, ça. J'ai tout de suite venu à la grande... C'était en 70, on m'a mis professeur de yoga. J'étais dans l'esthétique. J'étais créateur de mode. Je travaillais à Paris, Faubourg Saint-Honoré, avec Cardin. Avec Alexandre, le grand coiffeur. C'était mon métier, j'étais coiffeur créateur de mode. Mais mes coiffures sont allées dans le monde entier, esthéticien. J'ai toujours aspiré à des niveaux assez élevés, parce que j'ai besoin de... Je suis perfectionniste. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais comme j'étais malade, ancien tuberculeux, en coulisses, je travaillais pour me construire. J'avais commencé à courir dans les forêts, pieds nus. Et donc, pour me construire, me reconstruire une santé que je n'avais pas, tout en me perfectionnant dans une... Puis en même temps, j'avais le yoga, j'avais une petite salle à moi, et je guidais les gens sur l'esthétique corporelle, etc., du visage. J'avais la deuxième installation d'Europe, j'avais des assistantes, j'avais 8 employés, habillés comme des hôtesses de l'air, et puis moi, j'étais en costume, nœud papillon noir, la classe, quoi. Et j'ai tout balancé d'un seul coup, j'ai changé de costume, je suis devenu prof de yoga dans la même ville bourgeoise du département de l'Allier, Moulins. Préfecture de... Voilà, j'ai fait ça. Alors les gens étaient surpris, mais j'avais préparé tout ça. Et j'ai eu 350 élèves assez vite, en 70.
Si on vient à un cours de yoga de Maurice Dobar, comment ça va se passer ?
Ça se passe très bien.
Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose. Mais comment, voilà, on va essayer de donner une dimension visuelle à celui qui nous écoute.
Faut venir, mais donc demain matin, à 7h, c'est le dernier cours. Vous prenez le funiculaire à 7h moins le quart. Allez, venez.
On prend le funiculaire, où ça ? Ici, à 7h
moins le quart. Là, et ça monte à 2400. On va à 2400 mètres. On est dans la montagne avec les cloches des vaches, c'est beau. Et puis là, j'ai 60 personnes. Qui viennent avec moi là-haut. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire l'autre jour. Parce que le matin, je dis, quelqu'un de bien a dit, si plusieurs personnes se réunissent en mon nom, je serai là. Et je dis, j'ai téléphoné au ciel pour qu'ils viennent. Je dis, il est là. Puis tout d'un coup, il y a un homme en face de moi. Un homme qui a autour de 60 ans. Il me regarde dans les yeux. Mais vous auriez vu ses yeux. Mais vraiment, j'en ai pleuré d'ailleurs. Désespéré. Il me regardait comme si j'étais je ne sais pas qui. Il me dit, j'ai perdu Dieu. J'ai perdu Dieu. Puis il s'est mis à pleurer. J'ai perdu Dieu, qu'il me dit. Mais il était désespéré. J'ai dit, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas de réponse à vous donner. Je me suis levé, j'ai serré dans mes bras, il a sangloté à fond, comme ça. Tout le monde était là, ils ont pas compris ce qui se passe. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je dois dire? Inspire-moi, Seigneur, ce que je dois dire. Et puis, j'ai révélé ce qui s'est passé. Il était tellement désespéré, il pleurait tellement. C'était un crève-cœur. J'étais ému, tout le monde a vu que je peinais. Je dis, voilà ce qui vient de se passer entre ce monsieur et moi. Je ne connaissais pas. Je dis, écoutez, je vous en prie, s'il vous plaît, venez l'embrasser. Toutes les femmes lui ont sauté dessus, l'ont embrassé, tous les hommes aussi. Tout le monde pleurait, tout le monde s'embrassait. C'était une scène magique, quoi. Puis après, j'ai dit, j'ai enchaîné, je n'étais plus prof de yoga, c'était lui. Et puis après, il y avait un exercice, on se met à ouvrir la poitrine dans le soleil levant. Oh, vous verriez ce levant de soleil derrière les jeunes. Zina est dans le noir, et nous, toutes les vaches sont éclairées, la montagne est éclairée. En face, on voit les neiges. Alors, il y a un exercice comme ça, c'est émouvant, quoi. J'ai préparé ça, ça fait partie du tout mot. Les gens sont déshabillés, plus ou moins, je les brutalise pas. D'abord, ça a rien. Et puis, il pleurait debout comme ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, moi je suis plus rien. Je l'ai tourné vers le public. J'ai regardé cet homme. C'est lui, c'est le Christ qui est descendu. Il était comme ça, il pleurait, il était bouleversé. Tout le monde était bouleversé, il s'est passé une sorte de miracle, les gens sont parvenus. Et puis ensuite, après, vous voyez, tout s'enchaînait. À la fin, je lui dis, alors, comment c'est? Il m'a dit, j'ai retrouvé Dieu. Vous voyez, comment trouver de la tristesse dans une atmosphère où la joie est partagée comme le pain et où le succès d'un seul est une victoire pour tous? C'est des paroles d'évangile. Je dis, vous voyez, on a fait un miracle. C'est grâce à vous.
As sure as the river runs to the sea, one day, one day, one day, the land of snow, Tibet will be free, one day, one day, one day. And if you can see it in your mind, there's no stopping what will be. Picture it, know it's true, Tibet will be free, Tibet will be free.
C'est quoi le tout mot? Ça va répondre à votre question précédente. Le tout mot, c'est ce que j'ai vécu. Je ne prépare jamais rien. parce qu'il m'est arrivé de sortir du chalet. Il y a une tempête dehors, c'est plus la carte postale. Mais je dois aller à mon rendez-vous tout mou, à mon tapas du matin. Alors je quitte le chalet, il fait froid, la tempête souffle. Je vous dis ce que j'ai vécu. Vous me croyez? Hein? D'accord? Vous me croyez? J'invente rien. J'ai préparé mon... Je suis à 100 mètres du chalet. J'ai quitté le confort. Je me déshabille, je mets dans un sac plastique. Le vent, les rafales de vent. Tout du côté est complètement givré. Là-dedans aussi, sûrement. Et puis l'autre côté est bien. Mais ça dure 5 minutes. C'est l'enfer. Je suis déshabillé. Pas comme ça, parce que ça symbolise la tristesse. La joie est en extension. Je fais ma prière. Je suis dans une tempête. Il n'y a pas un animal sauvage dehors. Tellement il fait froid. C'est pas la carte postale. Ça dure la tempête. Mais moi, je reste une heure comme les Tibétains. Pourquoi? Pour m'offrir au froid, pour obtenir la chaleur.
Donc on arrive à maîtriser. On arrive à maîtriser son corps, ses cellules, ses organes.
Qu'est-ce que vous faites quand vous allez sur la plage? C'est la thermophysiorégulation du chaud. On a tout ça en nous, les deux parties, l'extrême froid, l'extrême chaud. Mais qu'est-ce qu'on a mis? On a mis la clim. On veut plus avoir froid. On ne veut plus avoir chaud, on ne veut plus avoir soif, on ne veut plus avoir faim, on ne veut plus avoir... Et total, on est malade. Parce qu'on subit une désescalade. Pendant ce temps, les microbes, les virus, eux, ils permutent, ils évoluent. Mais nous, on fragilise surtout la France. On est classé parmi les plus angoissés, qui fréquentent plus les médicaments du monde. La France, oh, tu parles d'une réputation. Eh bien, aller avoir soif dans le désert, j'ai fait le marathon des sables. J'étais le seul yogi à le faire. C'est la course la plus dure du monde. J'étais jeune, j'ai 68 ans. Sac à dos, toute la nourriture pour la semaine. Vous connaissez cette course? Ben, je l'ai faite. Dans l'extrême chaud. Pour faire une expérience. J'ai pas souffert de la chaleur. Parce que le froid rend tonique. Vous êtes dynamique, tonique. Plein de défenses immunitaires. Donc la maladie tient pas la route. C'est comme le Tibet qui avait des pioches contre les Chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce que vous voulez vous défendre? Si vous êtes ceinture de karaté, noir, personne ne vous attaque. On n'ose pas. Alors voilà à quoi sert le tumo pour faire... On devient un homme de feu, une femme de feu. Hein, les deux. Hein. Et après, mais c'est le prix à payer, c'est pas confortable. La valeur de l'homme réside dans la démarche. C'est quand je suis dans la forêt, si vous venez chez moi, vous verrez. J'ai un centre dans une forêt, vous verrez sur Internet. Une forêt de 4000 hectares. Pas moi. J'ai mis mon centre là. Et tous les matins, l'hiver, je suis tout seul. Je me lève et je vais nager. Je casse la glace, je vais nager. La valeur de l'homme réside dans la démarche. C'est une de mes paraboles. Parce qu'il y a les démons qui disent, vas-y donc pas aujourd'hui. Il faut devenir disciple de sa discipline. Alors depuis des années, je fais ça. Et j'ai écrit, j'ai peur d'écouter mes excuses. Chaque matin, qui vous disent, vas-y donc pas aujourd'hui. La fille a dit, je vais avoir mes règles, j'y vais pas. On cherche des excuses pour pas y aller. Mais si tu as une discipline, tu y vas. Tu l'as fait. Et c'est elle qui te construit, qui te renforce, qui t'apporte tout. Un bénéfice considérable. C'est pas de faire, je fais du yoga par snobisme, dans une salle confortable avec des habits à la mode. Ça donne rien. Chez moi, j'ai des totems. Des totems 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, je mets les gens dessus. À 3 mètres, immobile. Eh ben là, on n'est pas dans un fauteuil, dans un beau salon comme ça. C'est pas confortable, les gens vertigent. Et je les invite à... Il n'est pas question de tomber, hein. Vous n'avez pas le droit de tomber. Ici, ça travaille. C'est ce que faisaient les samouraïs. J'ai mis ça. Moi, c'est pas du yoga de salon. J'en ai du yoga de salon. J'ai une belle salle chez moi. C'est une église. Mais aussi, il faut savoir aller se tester. On quitte son habit de lumière, de paraître. On est déshabillé le matin dans la tempête pour être. Entre le paraître et être. On peut voir quelqu'un dire, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau. Bien habillé, classe. Elle se tient bien, elle croise ses jambes, elle est distinguée intellectuellement. Elle, la personne. Puis dès qu'il y a une panique, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a qu'une écorce. C'est de paraître. Mais la discipline, c'est pour être. Sculpté par l'aventure, pas ta peur, mais tu affrontes ta peur. La valeur de l'homme réside dans la démarche. Qu'est-ce que tu es grand quand tu quittes ta couette chaude le matin pour aller casser la glace et aller nager. Tout seul dans la forêt, c'est ce que je fais. Et que les démons te disent, vas-y donc pas ce matin. Mais vas-y. Pourquoi ? Et je rencontre en bénéfice l'exaltation. L'exaltation. Les gens sont habitués à la peur. Le tabou du froid. Ils ont peur, ils se recroquevillent et ils ont froid. Forcément, si on se met comme ça, on a froid. Et qu'est-ce qu'on dit bonjour en France ? Bon, il ne fait pas chaud ce matin, hein, ça caille. Hein. Oui, et s'ils attendent un train ou quelqu'un, ils ont un frisson parce qu'ils ont fait l'image négative. J'étais avec des scientifiques qui m'ont testé. Je suis déshabillé, je suis harnaché comme au CNRS partout. On me met des habits, même ma respiration, vous verrez, il y a des photos. Ils testent tout, mon cœur, tout, je suis bourré d'appareils, etc., tout le temps, pour tester, pour voir comment je réagis. J'avais 77 ans. Dernier voyage avec des scientifiques en Laponie, en Finlande. Ils m'ont fait avaler un mini-ordinateur qui est gros comme une balle de revolver en alliage. J'ai bu 3-4 verres, j'arrivais pas à l'avaler. Ils me disent, on vous en fait cadeau. Forcément, il était dans l'estomac. Avec ça, j'ai vu mon... sur un écran géant, avec une caméra, pas une caméra, un instrument qui coûtait 100 000 euros, ils m'ont dit. J'ai vu mon sang, j'en reviens pas de voir mon sang qui, sur un grand écran. Et avec ça, ils font, dans l'infinitésimale, ils observent tout. Je suis resté 1h10, ils voulaient voir jusqu'où j'allais descendre en hypothermie. Il n'y a pas eu d'hypothermie. Ils ont dit, c'est incroyable, il est incroyable. Mais j'avais tellement peur de ne pas être à l'auteur avec les Esquimaux, mais ils ne les habillent pas. Et un matin, j'arrivais avant les autres pour être seul, j'aime bien être seul. Je me déshabille dans la clairière. On était à 400 km au nord du cercle polaire. J'ai des photos, tout. Donc, au bord de la frontière russe. J'étais dans une clairière, c'est tout plat, là, la Finlande. Il y a eu moins 30 la nuit. Là, le jour n'était pas levé, mais il y avait moins 25. Je me suis déshabillé. Vous allez voir, l'histoire est belle, j'ai publié. Et tout d'un coup, au fond, il y avait une petite terrière dans la forêt de sapins. Et là, sous une branche basse, jouait un animal. J'ai cru que c'était un chien de traîneau. Il reniflait en me regardant avec des yeux féroces, des yeux terribles. Il reniflait doucement au ras de la neige. Et il remontait en haut de ses pattes. Il redescendait, il a fait ça pendant un siècle. Et moi, j'étais là. Il dit, c'est pas possible, c'est pas un chien. Les oreilles courtes, je dis, on dirait un loup. Eh ben oui, c'était un loup. Vous avez déjà été, vous, en Laponie, le matin, devant un loup le matin, immobile, déshabillé, avec un loup. Eh ben oui, moi, c'est mes aventures. C'est ma vie. Je sais pas... Le message que je peux donner, c'est... que j'aimerais que tout le monde achète un petit autocollant avec le drapeau tibétain, unifié libre, il est unifié libre, et marqué en dessous « Tibet libre ». Et que tout le monde colle ça sur sa voiture. Ça coûte 2 euros. Sans violence, sans agressivité. Que l'Occident entier se mobilise. Ça coûterait 1,5 euro, 2 euros, on trouve ça, pour que, ainsi que tous les pays du monde, mais que les Tibétains qui sont des sages, qui méditent depuis toujours pour la paix dans le monde, c'est un peuple très spirituel, puissent exprimer leur liberté et leur valeur pour le monde entier. C'est mon message.
Merci Maurice.
Votre service, c'est un plaisir pour vous.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.